Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le président Alassane Ouattara était il y a quelques jours à Paris au palais de l'Élysée pour rencontrer le nouveau chef de l'État français, Emmanuel Macron. À l'issue de cette entrevue, les deux hommes ont fait une déclaration à la presse. Emmanuel Macron a complimenté son hôte pour les bons résultats de l'économie ivoirienne.
L'économie ivoirienne est une des plus dynamiques aujourd'hui et des plus diversifiés d'Afrique, avec une croissance d'un peu plus de 7% en 2016, une économie qui est aussi au-dessus du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne.
Dans sa réponse, le président ivoirien n'a pas caché que son pays faisait face à quelques turbulences.
Nous avons, au cours des derniers mois, subi des chocs intérieurs et extérieurs qui rendent la gestion économique plus compliquée. Mais malgré cela, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance d'environ 7% comparé à la moyenne de 9% que nous avons connue au cours des 5 dernières années.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2010 jusqu'à une date récente, le pays semblait être entré dans une spirale économique vertueuse, ce qui s'est traduit jusqu'à cette année par une croissance du produit intérieur brut annuel qui a frôlé les 10% parfois. Mais la baisse des cours du cacao, dont le pays est le premier producteur mondial, a apporté un premier coup à cette économie. Puis sont venues les mutineries ces derniers mois et il a fallu sortir le chéquier pour faire rentrer les soldats dans les casernes. Moins de rentrées et plus de dépenses, cela a suffi pour faire planer le doute sur la réussite du modèle ivoirien. Alors, quel est ce modèle? Y a-t-il un modèle? La croissance de ces dernières années a-t-elle profité à tout le monde? Et la Côte d'Ivoire peut-elle échapper à l'économie de la rente basée sur la production de cacao, de café ou de coton? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Gervasio Semedo.
Bonjour.
Gervasio Semedo, vous êtes maître de conférence à la faculté d'économie de l'université François Rabelais à Tours, dans le centre de la France. Vous êtes également consultant auprès de la CEDEAO. Quels sont vos liens avec la Côte d'Ivoire?
Mes liens avec la Côte d'Ivoire remontent à 2010. Et j'ai connu le professeur Lambert Galadjo dans le cadre du programme de troisième cycle interafricain. Et il m'avait invité à Abidjan parce qu'il fallait écrire un ouvrage sur la CEDEAO. Il venait à ce moment-là d'être nommé commissaire chargé des études macroéconomiques auprès de la CEDEAO. Et cet ouvrage était intitulé « Sortir du sous-développement, quelle nouvelle piste pour l'Afrique de l'Ouest ?» Et j'ai été pris dans le comité scientifique qui devait présider ces travaux. Et par la suite, je me suis fait des amitiés à Abidjan, notamment Kalilou Silla, qui est très entreprenant. Ensuite, Ibrahim Diarra, directeur du CIRES.
Alors avec nous dans le studio également Gilles Dufresneau. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour.
Gilles Dufresneau, vous êtes professeur d'économie à l'université Aix-Marseille. Vous êtes également chercheur au CEPI, un des grands centres de recherche économique en France. Même question qu'à Gervasio Semedo, vos liens avec la Côte d'Ivoire, quels sont-ils?
Alors moi j'ai eu l'occasion de travailler sur la Côte d'Ivoire lorsque j'étais conseiller à la commission de l'UEMOA.
Donc,
il y a quelques années de cela, entre 2004 et 2008, et où j'ai effectivement également connu l'ancien commissaire, donc Lambert Galadjo, que je connaissais par ailleurs, que j'avais connu en France quelques années auparavant. Et puis, j'ai continué à m'intéresser au pays dans la mesure où, avec le Sénégal, c'est une des économies dont le poids est important en Afrique de l'Ouest. Voilà.
Alors, au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous irons à Abidjan avec deux correspondants, Arnaud Froget et Coralie Pierret. Et puis, nous rejoindrons aussi Yaya Boudani à Ouagadougou, qui nous parlera des relations économiques entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On a entendu tout à l'heure l'échange entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Et ce qui ressortait de cet échange, c'est les bons résultats de l'économie ivoirienne. 7% de croissance cette année seulement, allait-on dire. Parce que le pays a plutôt l'habitude de tourner autour des 9% depuis 5-6 ans. Qu'est-ce qui explique ce chiffre à la chinoise, Gilles Dufresneau?
Je crois qu'il est important de noter la chose suivante, c'est que les chiffres importants de la croissance traduisent un phénomène de rattrapage. Donc, c'est une façon pour la Côte d'Ivoire de rattraper des taux de croissance qui avaient été perdus pendant la décennie de la crise sociopolitique. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que le pays est sur la bonne voie. Il faut tout de même considérer la chose suivante, c'est que l'objectif final, ça reste quand même le niveau de développement, c'est-à-dire que ce phénomène de rattrapage économique, l'objectif, c'est de faire en sorte que la croissance soit inclusive et profite...
Gilles Dufresneau, rattrapage économique, ça veut dire quoi?
Alors, rattrapage économique, ça veut dire simplement que si vous vous fixez à terme d'avoir un taux de croissance de 5% de façon régulière, eh bien, vous êtes obligé au départ d'avoir un taux de croissance qui est très élevé. C'est l'idée du rattrapage, c'est ça, c'est que vous êtes obligé d'avoir des taux de croissance qui sont extrêmement élevés au départ, c'est-à-dire parce qu'il faut mettre en place des infrastructures, parce que les activités de transport redémarrent, parce que le commerce redémarre. Donc c'est ça, il faut remettre l'économie en route. Et pour pouvoir, c'est un petit peu comme une course, hein, c'est que pour rejoindre en fait un objectif, vous êtes obligé de courir un peu plus vite que ce que vous ne faisiez auparavant. Et donc, c'est exactement ce qui se passe actuellement pour la Côte d'Ivoire.
Gervasio Semedo, rattrapage, vous êtes d'accord avec cette vision des choses?
Tout à fait. Les économies qui subissent des chocs violents, des ruptures, des conflits armés ou de l'instabilité politique en tout cas, après une certaine pause, il n'y a plus rien et il faut repartir et on part plus vite. Je pense que ça a été constaté dans toutes les économies qui sortent de guerre.
Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a perdu sur le plan économique pendant cette décennie des années Gbagbo 2000-2010? Est-ce qu'elle a reculé?
On ne peut pas dire qu'elle a reculé, mais certaines activités, bien sûr, ont été en recul. Et ensuite, au niveau interne, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de mobilité des facteurs, de production, des mobilités de marchandises, etc. L'économie était forcément bloquée. Je crois que on peut pas dire le contraire par rapport à cette situation.
Le pays s'est appauvri pendant cette période?
C'est ça qui est important, c'est que les indicateurs de développement humain, que l'on prenne le taux de pauvreté, l'intensité de la pauvreté, la mortalité infantile, bon, on a un certain nombre d'indicateurs de développement humain qui ont, les chiffres ont été pires, on va dire, pendant la crise sociopolitique, et c'est justement ça qu'il faut effacer. Et donc, un seul chiffre, hein, c'est que le taux de pauvreté en 2011 avoisinait les 50%, ça veut dire qu'un niveau Ivoirien sur deux vivait avec moins de $2.
Quels sont les éléments de la politique économique mise en place par Alassane Ouattara pour atteindre ces scores très impressionnants de croissance?
Alors, il y a quatre secteurs qui tirent actuellement l'activité. Je pense que le climat des affaires, le climat des investissements s'est amélioré. Il y a quatre secteurs qui sont importants, le transport, commerce, la finance, le secteur de l'énergie un petit peu. Je crois qu'il y a la création d'un environnement économique qui fait que les investisseurs deviennent davantage confiants. On en parlera peut-être, le secteur de l'immobilier également tire la croissance économique. Donc voilà.
J'aurais juste complété les bâtiments et travaux publics dans leur ensemble.
C'est-à-dire
la construction, les logements, etc. ont pris de l'essor à Abidjan durant cette dernière période.
Alors on va en parler justement, on parle de boom immobilier même à Abidjan, on peut le détecter facilement en se promenant dans les rues de la capitale économique ivoirienne, des quartiers chics d'Abidjan aux plus modestes, les chantiers traversent en effet toute la ville, des centres commerciaux, des hôtels de luxe, de grands sièges bancaires sortent de terre, mais la priorité c'est avant tout de construire des logements pour les familles, et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Coralie Pierret à Abidjan.
Sur les hauteurs de Bingerville, à l'est du district d'Abidjan, Ebenezer range des sacs de ciment. La poussière blanche s'est déposée sur les étals de sa quincaillerie.
Là, ici, il y a les débouchéviers pour les WC, il y a les flexibles pour la douche. En plus, il y a des colles à bois que nous vendons.
Qui vient acheter des produits ici?
Bon, les carrelés, les plombiers, même les patrons même viennent nous voir aussi. Ça fait au moins trois mois que je vends. Je me suis installé en masse pour faire plus de commerce.
Quelques échoppes plus loin, Romaric, ébéniste, fonce les planches d'une future étagère murale. Il est installé depuis un mois dans un atelier de fortune sous des bâches en plein air.
Je vais créer mon activité comme ça, un peu au fur et à mesure. Actuellement, les affaires marchent un peu, mais on n'a pas assez de main-d'œuvre dans les activités.
À la cité Opès, 515 unités devraient être habitables d'ici 2018. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux. Le gouvernement ambitionne la construction de 150 000 bâtiments à l'horizon 2020. Maurizio Ciamballo est l'architecte italien de ce chantier, l'un des plus grands de la capitale économique.
Il y a les maisons pour toutes les typologies des personnes, à commencer des personnes les plus pauvres à les personnes qui ont les moyens.
Est-ce qu'on connaît déjà les prix ?
8 millions, 9 millions, jusqu'à 105 millions. C'est une petite cité, il va avoir aussi une école dedans, et il a beaucoup d'espace vert et les parkings.
Aujourd'hui, il y a un large déficit à combler. Entre 600 et 700 000 habitations manquent en Côte d'Ivoire. La priorité est donc d'abord de construire, puis il faudra vendre aux particuliers. Siriki Sangaré est le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés.
Dire aujourd'hui que nous sommes arrivés au bout de nos objectifs, non. On n'a pas encore atteint le boom. Lorsqu'on sort un logement, c'est l'aboutissement d'un processus. Les clients qui sont en face, la cible visée, ce n'est pas tout le monde qui a un compte en banque. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on tourne entre 15 et 16% de taux de bancarisation, c'est très peu. Donc, il y a la demande. La demande est très forte. Il y a aussi un manque de logements. Nous cherchons simplement l'offre pour pouvoir combler.
Depuis 2010, environ 25 000 maisons sont sorties de terre. Parmi elles, entre 10 à 15 000 sont des logements sociaux.
Un reportage signé Coralie Pierret à Abidjan. Gervasio Semedo, je vous voyais prendre plein de notes en l'écoutant. En particulier, vous avez réagi à la mention d'un manque de main-d'œuvre pour effectuer ces constructions, pour travailler sur ces chantiers. Qu'en est-il ?
Comme le disait mon collègue Gilles Dufresneau, je pense qu'il y a des problèmes de transformation structurelle qui sont importants. Le développement exige beaucoup de capital humain. Et je crois que la pierre d'achoppement dans ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, notamment, on le voit bien dans les bâtiments et travaux publics, c'est de former de la main-d'œuvre. Donc, d'adapter l'école, les formations professionnelles à cette exigence d'une demande très forte dans le domaine immobilier. Parce que dans la plupart des cas, ce sont des immigrés sénégalais qui travaillent dans le bâtiment. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est un fait. Autre chose aussi, si la demande est excédentaire, il faut dire que 75% des Ivoiriens sont en location. Donc il y a 25% seulement de la population
qui est propriétaire.
Et là encore, on a des problèmes liés au titre foncier. Le gouvernement avait en 2014 mis en place ce qu'on appelle l'arrêté de construction définitive, qui a été une avancée par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Que dit cet arrêté ?
Il y a une simplification administrative pour éviter les entorses liées à la corruption, puisque plus un projet dure, plus des bureaucrates ou des fonctionnaires peuvent éventuellement
se gréver dessus et prendre leur part.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais le gouvernement, quand même, a contourné cette difficulté. Il y a autre chose aussi. Je ne pense pas que l'objectif d'avoir 150 000 constructions nouvelles par an dans le social soit suffisant. Il faut peut-être 400 000 à 600 000 constructions par an.
Gilles Dufresneau, faire de la Côte d'Ivoire une nation de propriétaires, c'est un objectif qui est raisonnable, qui est pertinent ?
Alors, on peut le voir comme un objectif, mais on peut aussi le voir comme une conséquence, parce que ce phénomène, finalement, on l'observe dans tous les pays d'Afrique qui ont des taux de croissance importants. On peut prendre l'Éthiopie, la Zambie, l'Ouganda. Donc ça, c'est la première chose, c'est une conséquence. Deuxièmement, il y a une vraie pénurie de logements. Le gouvernement, à un certain moment, disait il va falloir chaque année construire entre 40 000 et 50 000 nouveaux logements. Alors c'est important de deux points de vue. D'abord, c'est important parce que bon, pour une population pauvre qui a besoin de se loger, il y a un plan national de développement qui prévoit, parce que ça fait partie du niveau de vie, bien se loger. Donc il y a ce volet logement social qui est important. Et puis il y a un deuxième volet, il ne faut pas oublier que la croissance économique, son objectif, c'est de faire émerger une classe moyenne. C'est-à-dire que la croissance a marché quand il y a une classe moyenne. Et en général, cette classe moyenne, sa richesse, évidemment, elle va l'attirer des revenus du travail, mais aussi une partie de sa richesse sera sous forme patrimoniale. Parce que typiquement, ce qui se passe, c'est que un certain nombre d'Ivoiriens, je pense notamment de la diaspora, qui achètent des maisons, c'est pas seulement pour se loger, c'est aussi pour louer. Actuellement, en Côte d'Ivoire, vous avez un phénomène qui vraiment qu'on peut observer, qui est une flambée des prix des loyers. Donc, plus vous avez de loyers, plus vous avez des revenus, on va dire, du capital, mais qui n'est pas du capital financier, c'est du capital immobilier. Et donc, ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, en fait, à la croissance économique importante. L'autre point important, est-ce que c'est bien de faire de la Côte d'Ivoire une nation de propriétaires? C'est un visage, en fait, de la croissance inclusive, en quelque sorte.
Voilà. Mais on parle des villes, de construction d'immeubles. La Côte d'Ivoire, ça n'est pas seulement un pays urbain, ça n'est pas seulement Abidjan,
oui.
Gervasio Semedo.
Il faut regarder aussi les projections, hein. C'est-à-dire si on laisse spontanément les choses se faire, évidemment, de plus en plus, un Africain sur deux va vivre dans les villes. Et il y a les corridors de survie en Afrique, hein. C'est autour des capitales ou des villes qui ont des infrastructures que les travailleurs viennent s'agglomérer. Je crois que, bon, ça, on peut pas, de manière spontanée, c'est ce qui se passe. Bon, faire appel ensuite à l'aménagement urbain, faire appel ensuite à l'aménagement du territoire, c'est un autre volet de la croissance inclusive. Mais pour le moment, tel que les projections se dessinent partout en Afrique, eh bien, on voit bien sur le balancier, l'équilibre ville-campagne est rompu. Il y a plus de citadins que de ruraux. Et autre chose aussi, c'est que quand les personnes arrivent en ville, il faut bien qu'il y ait un cadastre, il faut bien qu'il y ait de la fourniture de biens publics, de l'eau, de l'électricité, etc. Et de ce point de vue, la construction de logements répond à ces besoins d'aménager l'espace urbain, de l'adapter à la croissance démographique. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est une population de jeunes, hein. 33% de la population à Abidjan, enfin, ou en Côte d'Ivoire, à entre 25 et 54 ans. Comment on fait dans ces conditions?
Voilà. Gilles Dufresneau.
Effectivement, on a ce problème du fait que les zones urbaines sont des zones à très forte démographie, mais de manière générale, et je pense que c'est valable pour tous les pays d'Afrique, c'est que le développement, de mon point de vue, n'est pas suffisamment pensé en termes d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir un développement qui va se faire autour de quelques villes qui sont des villes piliers. Il y a Yamoussoukro, il y a Abidjan, etc. Et ça engendre une espèce d'hypertrophie, de déséquilibre en fait au niveau spatial. Et je pense que ça nous dit quelque chose, ça nous dit que le développement, notamment pour la Côte d'Ivoire, mais pour les autres pays d'Afrique, c'est pas simplement un problème de gestion macroéconomique, c'est aussi un problème de géographie urbaine, de géographie spatiale. Je pense que les géographes, les urbanistes, ceux qui s'occupent d'aménagement du territoire ont des choses très très importantes à nous apprendre sur comment est-ce qu'on peut avoir une croissance économique qui soit plus équilibrée et justement pour qu'elle bénéficie à tout le monde, c'est qu'elle bénéficie d'un point de vue spatial également.
Ce que vous voulez dire, Gilles Dufresneau, c'est que les dirigeants ivoiriens actuels, qu'ils soient au gouvernement ou dans la sphère privée, ont tort de tout concentrer sur Abidjan.
Ah, je pense que oui.
C'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe, mais ils ne sont pas les seuls. C'est un petit peu le problème d'un grand nombre de pays en développement, et africains en particulier. Vraiment, il est temps peut-être de réfléchir à une approche en termes d'aménagement spatial, d'aménagement du territoire.
Alors, on continuera cette discussion autour de l'économie ivoirienne dans quelques minutes, après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la situation économique en Côte d'Ivoire. Deux invités dans ce studio RFI, Jules Dufresneau, professeur à l'université Aix-Marseille, et Gervasio Semedo, maître de conférence à l'université François Rabelais de Tours. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu naturellement que l'économie ivoirienne avait accumulé au cours des 6 dernières années d'excellentes performances, avec un taux de croissance actuellement estimé à 7%, et excusez du peu, on serait bien content d'avoir ça en Europe. Nous avons vu que l'une des manifestations de ce taux de croissance était le boom immobilier dans la capitale économique Abidjan. Est-ce que les autres villes de Côte d'Ivoire ont connu semblable prospérité, Gervasio Semedo ?
Il y a un déséquilibre régional, hein, c'est Abidjan. Je ne dirais pas qu'il y a un désert
ivoirien.
Parce qu'il y a des zones de richesse quand même dans le pays. Hein. Et ces zones de richesse peut-être sont liées à l'économie de rente.
Et c'est-à-dire la culture du café, du cacao,
café, du cacao, etc.
Cacao surtout.
Puis de production vivrière quand même, parce que, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire produit des biens alimentaires adaptés à la demande locale, comparativement à d'autres pays de la zone, et ceci n'est pas du tout négligeable.
Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est une économie diversifiée ? Est-ce que, à part le cacao, dont on sait que c'est le premier producteur mondial, le coton, le café que j'évoquais, cette agriculture vivrière, il y a d'autres activités, une industrialisation ?
Oui, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas industrialisée. Enfin, disons que 15% du PIB, c'est le cacao.
Le produit intérieur.
Mais de plus en plus, des efforts ont été réalisés dans les produits de transformation. Et il y a une industrie légère qui existe en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi a d'autres activités, peut-être qui ne sont pas encore en plein essor, le gaz, le pétrole, etc., les mines. Je pense que si la demande mondiale reprend, la Côte d'Ivoire peut très bien se positionner. Et de plus en plus aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises implantées en Côte d'Ivoire, essentiellement des entreprises françaises, 700 et nigérianes, etc. Donc, presque 40% du PIB de l'ensemble des pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine, je pense que c'est important. La Côte d'Ivoire n'est pas négligeable de ce point de vue.
J'ai du Dufresneau, industrie légère, disait Gervasio Semedo.
Oui, tout à fait. Je crois
c'est
qu'il
quoi
faut...
cette industrie légère ?
Il est mieux placé que moi pour
détailler ça. Gervasio Semedo.
Les boissons, le tabac, les, tout ce qui tourne autour aussi de l'industrie alimentaire, hein,
agroalimentaire,
les savons, etc., participent à cette industrie légère.
Alors, moi, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que finalement, le fait que la croissance soit concentrée à Abidjan tient aussi à l'idée que la part des services dans la croissance est très importante. Des secteurs comme l'énergie, le commerce, les télécommunications, la finance, évidemment, tout ceci est concentré dans la capitale économique, on va dire ça comme ça, et donc c'est quelque chose qui n'est pas très étonnant. C'est un peu plus compliqué pour des opérateurs, des investisseurs qui arrivent, qui veulent développer un réseau d'infrastructures de télécommunications, d'aller ailleurs qu'à Abidjan. Il y a une espèce de... le rôle de l'histoire, en quelque sorte, qui joue et qui peut expliquer ce phénomène-là. L'autre point que j'aimerais souligner, c'est que tout de même, le pays doit prendre en compte les risques qui sont inhérents à une économie de rente. Parce que, quoi que l'on dise, le cacao, on voit bien que le pays souffre aujourd'hui un petit peu de la baisse des cours du cacao. Le cacao reste une production de rente. Hein.
Je voudrais qu'on revienne sur une notion que vous avez évoquée lors de la première partie de l'émission, Gilles Dufresneau, c'est cette classe moyenne qui émerge en Côte d'Ivoire. Il y a de grands centres commerciaux qui ont été érigé dans Abidjan, il y a une société de consommation qui se développe. Est-ce qu'il y a vraiment une classe moyenne qui existe actuellement en Côte d'Ivoire et qui peut structurer la société sur un plan économique et social ?
Alors, c'est l'objectif. Les autorités, en fait, de Côte d'Ivoire ont expliqué que, évidemment, ils ont des taux de croissance importants, mais leur objectif, c'est de faire entrer la Côte d'Ivoire dans la liste des pays à revenus intermédiaires. Mm-hmm. Ça veut dire des pays qui se trouvent dans une tranche où le revenu national brut est supérieur à 1025 dollars. Donc, il y a un objectif, 1025 à peu près, hein, 1025. Par tête, 1025 dollars par tête.
Au-dessus. Et par mois ou par an?
Par année.
Par année.
Donc, C'est un objectif. Et cet objectif, clairement, il veut dire qu'on veut mettre en place une classe moyenne. Et c'est tout à fait normal. Hein, c'est que, alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que lorsque vous avez une classe moyenne, ce qui se produit, en règle générale, c'est que la classe moyenne, en fait, va capter le fait que la richesse moyenne de ce qui est produit par habitant est en train d'augmenter. D'accord. Deuxième point important, c'est qu'en règle générale, quand vous avez une classe moyenne, c'est que les inégalités de revenus diminuent. La classe moyenne capte un petit peu ce qu'on trouve dans l'extrémité droite de la distribution. Donc, c'est un objectif. Et si vous avez un nombre de plus en plus important de propriétaires et que les loyers augmentent, ces loyers, ce ne sont pas des sociétés multinationales, etc., qui les touchent. Ce sont des Ivoiriens qui ont accès à la propriété. Et donc, à partir du moment où vous avez accès à la propriété, on peut estimer que voilà, vous avez un niveau de vie minimal.
Gervasio Semedo, sur la classe moyenne.
Sur la classe moyenne, effectivement, on voit de plus en plus, c'est un phénomène généralement constaté en Afrique, il y a la naissance d'une classe moyenne. Toutefois, la question que l'on peut se poser, c'est... la classe moyenne qui se constitue va-t-elle être pérenne ou fragile ? Dans certains cas, elle est fragile. Pourquoi ? Parce que les individus qu'on peut mettre dans cette catégorie travaillent soit dans le secteur informel, ont leurs propres affaires, ou quelquefois dépendent juste de l'implantation d'une firme qui, lorsqu'elle ne leur donne plus d'activité, eh bien, ils perdent leur emploi. Et effectivement. Et cette classe moyenne, c'est des gens qui ont des consommations qui tournent autour de, quelquefois, disons-le, 1000 CFA par jour ou 1200 CFA par jour.
Ça fait un euro
et demi. Très, voilà, un euro et demi ou deux euros. C'est très fragile hein, à ce moment-là. Mais après, il y a quand même en Côte d'Ivoire des gens capables de dépasser, enfin des personnes qui peuvent dépenser 20 euros par jour, 20 euros sinon plus. Et donc, il y a bel et bien une classe moyenne qui se constitue en Afrique. Et quand je dis dépenser 20 euros, ça n'a rien à voir avec le logement et tout ce qui s'ensuit. C'est 20 euros de dépenses journalières à réinjecter dans l'économie, acheter des biens et services, etc. Et ça peut aller même plus. On peut constater des gens qui dépensent 100 euros par jour, etc. Donc, il y a une classe moyenne. De fait, elle existe. Pourquoi ? Parce que, simplement, la concentration urbaine est telle que des réseaux d'affaires se créent. Avec le développement de nouvelles technologies également, les gens créent leurs propres entreprises quelquefois, se greffent sur les entreprises multinationales existantes dans le domaine des services, etc. Et donc, une classe moyenne est en train de se constituer partout en Afrique. Elle demande des biens collectifs, elle s'auto-organise au sein de la société civile et elle pose des problèmes de croissance inclusive.
Justement, cette croissance inclusive, elle n'est pas encore complètement atteinte parce que dans ce panorama plutôt réconfortant que vous nous tracez tous les deux de l'économie ivoirienne, eh bien, il y a des laissés pour compte dans cette belle histoire. C'est un reportage Écho d'ici et Écho d'ailleurs signé Arnaud Froger à Abidjan.
Tu vas montrer ma baraque triste.
Ta baraque triste.
Oui. Vraiment, je me sens abandonné.
Jusqu'en 2015, Doudou habitait dans le centre d'Abidjan. À cette époque, les autorités ivoiriennes mènent une intense campagne de déguerpissement. Des quartiers précaires entiers sont rasés pour éviter les éboulements meurtriers lors de la saison des pluies. Doudou fait partie de celles et ceux que l'on appelle les déguerpis. Aujourd'hui, elle vit dans une cabane en bordure de la capitale économique.
Non, quand on est arrivé, c'était la brousse. Il y avait des serpents. C'était horrible, j'ai dit quoi, des serpents bien ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est venu nettoyer les zèbres et puis on a déposé une baraque.
À cause du déguerpissement, vous avez perdu votre maison mais aussi votre activité.
Bien sûr, j'avais les deux magasins, il y en a un qui faisait salon de coiffure homme et l'autre c'était salon de coiffure dame. Et malheureusement, je n'ai même pas pu finir d'investir pour dire que je vais profiter du bénéfice. Et je me suis retrouvée anéantie. Et je ne suis pas la seule. Des femmes, des veuves, ça meurt parce qu'ils n'ont pas d'activité. C'est vraiment triste. On a oublié totalement.
Un sentiment d'abandon que partagent aussi les planteurs de cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Le cours des fèves a chuté de 35% depuis un an. Les producteurs ont subi une baisse équivalente de leurs revenus garantis par l'État, sans compensation financière. Koné Moussa est le président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire.
C'est un coup très dur pour le monde paysan. L'État ne fait aucun effort. Et aujourd'hui, si tu vas dans les plantations, les paysans ont pris phytosanitaire en crédit. Ils n'ont pas pu rembourser. Ce monsieur qui est assis là, C'est un paysan qui est beaucoup endetté. Il y a condition de manger, soins, condition de l'école des enfants, pas de route. Vraiment, les paysans souffrent.
Comment la Côte d'Ivoire peut-elle sortir près de la moitié de sa population qui vit encore sous le seuil de pauvreté malgré un taux de croissance supérieur à 8% depuis 2012? Pierre Laporte est le directeur des opérations de la Banque mondiale à Abidjan.
Pour nous, il y a plusieurs choses. D'abord, mettre l'accent sur les secteurs qui manquent pas seulement de l'emploi, mais l'emploi de qualité pour avoir une augmentation des revenus de la population. Aujourd'hui, on a l'agriculture qui joue un rôle important, mais on met l'accent sur la transformation de produits agricoles. Il y a aussi la politique budgétaire de l'État. À la Banque mondiale, on a un programme de 150 millions de dollars pour les filières sociaux dans les années qui viennent.
Le défi d'une croissance plus inclusive est immense en Côte d'Ivoire. La population active, qui compte aujourd'hui 14 millions de travailleurs, devrait atteindre plus de 22 millions en 2025.
Beaucoup de choses dans ce reportage d'Arnaud Froger à Abidjan, Gervasio Semedo. On va les prendre les unes après les autres. D'abord, cette commerçante qu'il a rencontrée, qui se trouve privée de ressources quasiment, parce qu'elle a été déguerpie, c'est le mot qu'on emploie en Afrique, du centre de la ville. Est-ce qu'elle est emblématique de quelque chose?
Oui, c'est assez emblématique. Là encore, c'est un contexte général. Dans tous les pays africains, il y a eu des problèmes de droit foncier mal définis. Et bien sûr aussi de droits coutumiers aussi, on n'a pas su régler les questions relatives à l'occupation des sols et des terres. Et bien sûr, il fallait imaginer des systèmes de dédommagement. Lorsque des gens ont une activité en principe, on doit trouver les moyens de les compenser judicieusement pour que ces personnes puissent continuer leurs activités. Je pense qu'il va de soi aussi qu'il faut entendre aussi les soucis des gouvernements. Vous allez à Lagos, la même question s'est posée. Il faut créer des centres urbains adaptés pour des raisons à la fois de sécurité, pour des raisons aussi de cadastre et pour des raisons de fiscalité. Parce que si vous n'avez pas un cadastre qui est clair, vous ne pouvez pas faire de fiscalité. Or, l'Afrique souffre énormément de questions de financement du développement. On a entendu qu'il fallait bien des bailleurs de fonds pour appuyer les programmes des gouvernements. Mais toujours, c'est des solutions exogènes. Il faudrait réfléchir aux solutions endogènes. Comment lever l'impôt? Pour lever l'impôt, il faut avoir un cadastre clair, bien défini. Et de ce point de vue, il faut à la fois concilier des problèmes de justice sociale. Lorsqu'on fait déguerpir des gens, il faut les dédommager de manière conséquente pour qu'elles puissent continuer à vivre dignement. Et en même temps, il faudrait aussi penser à la fiscalité qui est toujours bénéfique pour tous, qu'il y a des externalités pour tous si les dépenses sont utilisées à bon escient.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, de son économie sur la voie du redressement avec deux invités, les professeurs d'économie Gervasio Semedo de l'Université François Rabelais de Tours et Gilles Dufresneau de l'Université Aix-Marseille. Dans le reportage d'Arnaud Froger, Gilles Dufresneau, il était question du cacao, de la baisse des cours. Le cacao, c'est toujours central dans l'économie ivoirienne. Est-ce que c'est un problème?
Il faut bien prendre conscience de quelque chose, c'est que certes, les cours du cacao sont en train de baisser. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que c'est un phénomène de retour à la moyenne. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que au cours des 4 années précédentes, le cours du cacao avait augmenté. Pourquoi? Parce que le prix des autres produits de rente, le coton, par exemple, l'huile de palme, etc., eux avaient baissé. Et les investisseurs avaient en quelque sorte considéré le cacao comme une valeur refuge. Donc à ce moment-là, le prix du cacao avait augmenté. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement un retour à la moyenne. Maintenant que les prix des autres commodities, des matières premières sont en train de remonter, eh bien, les investisseurs, en fait, rééquilibrent leur portefeuille. Il faut préciser quelque chose, c'est que 30% des activités sur le cacao sont le fait d'investisseurs, c'est-à-dire de gens...
De spéculateurs,
tout à fait. Et donc, la baisse que l'on observe aujourd'hui, c'est simplement le fait que ces spéculateurs rééquilibrent leur portefeuille.
Mais est-ce que c'est un problème pour la Côte d'Ivoire que le cacao reste cette chose tellement importante, j'allais dire vertébrale, dans son économie?
Alors, c'est un problème si jamais elle ne diversifie pas son économie. C'est la raison pour laquelle 7% de taux de croissance, c'est bien, mais peut-être faut-il rappeler que d'autres pays ailleurs dans le monde avaient des performances identiques. Je pense par exemple aux pays d'Amérique latine. On a bien vu que l'astuce, en fait, c'est de profiter des périodes où le taux de croissance est important pour diversifier l'économie. On voit bien que si ça ne se fait pas, il suffit qu'un retournement des cours pour que ça pose un problème. Donc oui, c'est quelque chose auquel la Côte d'Ivoire doit faire très très attention.
Gervasio Semedo, le cacao vertébrale dans l'économie ivoirienne, c'est un problème ?
C'est un problème. Évidemment, on aurait pu aussi imaginer le fait que les spéculations foncières aillent du côté de l'EVA. Aussi de...
Oui, j'avais oublié de citer l'EVA.
L'EVA et peut-être aussi les produits vivriers. Vraiment insister sur la production de cultures vivrières. Parce que ce qui compte, en fait, dans un processus de développement, c'est la baisse des coûts des biens salariaux. Wage goods, comme disent les économistes. Les baisser à long terme parce que l'industrie en a besoin. Si, dans une économie, les personnes sont suffisamment bien nourries, eh bien, les conditions sont à des prix très bas, les conditions sont réunies pour qu'il y ait un décollage. Ça, c'est un premier point. Là où la diversification aussi était possible, c'était de se poser la question tout simplement, quelles sont les infrastructures qui peuvent accompagner d'autres cultures, hein? Je pense par exemple au problème hydraulique, au problème de l'énergie et au problème des intrants en Côte d'Ivoire. Et il fallait aussi penser, bien sûr, à l'articulation entre les banques et l'agriculture aussi. C'est une manière aussi de contourner ces difficultés.
On entendait tout à l'heure dans le reportage d'Arnaud Froger, un syndicaliste paysan se plaignant de ne pas être entendu par le gouvernement ivoirien. Il y a des gens qui ont trouvé des moyens pour se faire entendre et comment ? Ce sont les militaires qui se sont mutinés, en particulier à Bouaké, mais aussi à Abidjan au cours des derniers mois. Le 7 janvier dernier, Frédéric Gara, le correspondant de RFI en Côte d'Ivoire, s'est rendu au camp Galieni, en plein cœur de la capitale économique ivoirienne, et il a recueilli les revendications des soldats en colère.
Bon, vraiment, si tu nous vois sur la route, c'est parce que dans l'armée, il n'y a pas syndicaliste. C'est le seul moyen qu'on peut faire pour nous des affaires. Et sans nous, il y a eu guerre civile en Côte d'Ivoire qui allait venir en Côte d'Ivoire. Tout le monde le savent. Les 10 ans sans salaire, c'est grave. On a accepté, on est là pour que la paix aille en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont devant nous, ils sont devenus millionnaires, ils sont devenus les milliardaires, ils s'en foutent de nous. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Ça fait 5 ans, il n'y a pas de construction de casernes en Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ?
Nous, on réclame notre droit. Notre salaire ne nous suffit pas. Un, de deux, notre galon. Parce que le combat qu'on a mené à nous, c'est le combat de la liberté. On n'a pas affaire à notre population. On a affaire
à l'officier,
à ceux qui sont devant nous.
Finalement, le gouvernement a cédé aux revendications des militaires. Coût estimé pour le budget ivoirien, 153 millions d'euros. Le pays en a les moyens, Gervasio Semedo ?
Dans les conditions actuelles, il faut dire non. C'est un choc budgétaire immense. Le gouvernement ivoirien voulait compenser les militaires qui réclament leur part par rapport à tout ce qui s'est passé, l'histoire passée, donc ce serait extrêmement difficile. C'est pourquoi la communauté internationale doit quand même aider. Lorsque des économies sortent de tensions aussi violentes, il faudrait quand même prévoir des amortisseurs, prévoir des...
Mais pour l'instant, ils n'existent pas.
Ces amortisseurs-là n'existent pas. Et c'est la grande difficulté. Et on ne peut pas laisser, en tout cas, le gouvernement de Ouattara, dans les conditions actuelles, sous cette pression des militaires.
Gilles Dufresno, grave difficulté budgétaire pour la Côte d'Ivoire ?
Oui, de grave difficulté budgétaire, en fait, on est face à un problème finalement assez classique d'état fragile. C'est le terme qu'on emploie à la Banque mondiale, hein, c'est on a un état fragile, c'est-à-dire un état dans lequel, à la suite d'un choc sociopolitique par exemple, un des problèmes importants, c'est la mise en place d'institutions qui soient solides. Bon, évidemment, ça prend du temps, faut bien le souligner, ça prend du temps. Et donc c'est ce que l'on est en train d'observer. La vraie question, c'est évidemment que les institutions, elles sont faites à partir d'hommes. On voit bien que les revendications qui sont faites sont des revendications salariales. Or, la difficulté, c'est qu'en matière de gestion macroéconomique, le gouvernement n'a pas les moyens parce qu'il doit par ailleurs investir dans un certain nombre d'autres activités. Donc ça, c'est un casse-tête. Je crois qu'il n'y a pas de réponse...
Vous pensez que ça menace la croissance, le rétablissement, le rattrapage de la Côte d'Ivoire ?
Ah, très clairement, j'ai fait un papier récemment avec une de mes collègues qui est actuellement à l'AFD, et ce que nous montrons, c'est que les institutions... au sens large, y compris les institutions politiques, jouent un rôle clé dans le fait qu'un pays soit piégé dans une trappe, ce qu'on appelle une trappe de pauvreté ou non. Donc c'est évidemment fondamental, c'est vraiment un des points clés.
Gervasio Semedo ?
Et je penserai plus de manière élargie à l'équilibre régional. Si la Côte d'Ivoire et perturbé, c'est l'ensemble des pays de l'UMOA et de la CEDEAO qui ont subi les conséquences. La Côte d'Ivoire ne serait pas toute seule. Donc déstabiliser la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour des revendications qu'on peut estimer légitimes, je pense que c'est des personnes qui ont participé à quelque chose dont je ne sais pas trop les contours. Hein. Mm-hmm. Mais quand bien même...
Mais vous pensez, comme le dit Jules Dufresneau, que ces revendications, cette problématique budgétaire peut faire dérailler le modèle économique ivoirien?
C'est l'instabilité politique. Et l'instabilité politique, vous voyez bien ce que cela comporte après comme conséquence. On ne peut pas se développer sans stabilité des institutions. Or, comme le dit Jules, toutes les économies fragiles sont sujettes à ces problèmes de gouvernance et de stabilité des institutions.
Alors, vous parlez de la région, de l'impact régional, Gervasio Semedo. Au Burkina Faso, on est très sensible à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays enclavé, le Burkina Faso, que le grand port d'accès, c'est Abidjan. Alors, c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Yaya Boudani à Ouagadougou.
Partenaire privilégié du Burkina Faso dans le domaine commercial, la Côte d'Ivoire est le pays de transit par excellence des produits en direction du Burkina Faso. Nazer Paré est le directeur général du commerce au Burkina Faso.
Donc en termes de volume, on peut dire que par exemple si on prend l'année 2011, sur le plan des exportations, on était à 11 milliards. En 2015, on était à 45 milliards. Et en termes d'importation, si on prend l'année 2011, on était à 123 milliards. Et en année 2015, on était à 147 milliards.
Le Burkina Faso importe de la Côte d'Ivoire les huiles de pétrole, les tabacs, le café, le thé et les extraits d'essence, entre autres. Et en revanche, exporte vers ce pays les fils de coton, les graines, les fruits oléagineux et les jus de fruits. Le port d'Abidjan reste le port privilégié des Burkinabés, selon le directeur général du commerce.
Imaginez-vous un jour qu'on dise que le port de la Côte d'Ivoire est fermé. Ça veut dire déjà, en termes de volume de transit, nous allons être bloqués parce que le port d'Abidjan représente pratiquement les 75% de notre transit.
Abdoulaye Compaoré fait du commerce des pièces détachées et des produits de beauté. 4 fois par mois, quand le climat social le permet, il se rend à Abidjan pour s'approvisionner.
Actuellement, nous essayons de faire le train. Sinon, avant, le camion est plus rapide. Vous payez, vous mettez dans un camion, dites ou un remorque, ça vient aussi rapidement que ça. Mais avec la crise répétitive et puis avec l'insécurité, nous venons maintenant dans le train, qui est lent et qui vient tard aussi.
Les relations commerciales entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'approvisionnement des marchés en termes de produits de grande consommation. Un tour sur le marché situé à proximité de la gare ferroviaire de Ouagadougou permet de savoir les répercussions d'une crise sur le territoire ivoirien.
Je vends de la tique, avocat, ananas, banane. Si, quand le train n'est pas là, on a du mal à avoir des marchandises.
En tout cas, quand le train ne vient pas, ça ne nous arrange pas. 2 jours là même, il y avait un peu la mitinerie des choses à gendarmes et ces militaires. On a perdu, les tous sont venus, c'est pourri.
Autorités burkinabè et ivoiriennes travaillent à améliorer les relations commerciales entre les deux pays par la mise en place d'infrastructures et d'une zone de libre-échange, selon Nazer Paré, le directeur général du commerce.
Nous avons par exemple la Banque mondiale qui nous a appuyé dans un projet qui va permettre de connecter tout le système douanier pour faciliter le transit.
Toute chose qui annoncera la naissance d'une zone continentale de libre-échange pour le bonheur des opérateurs économiques.
Un reportage signé Yaya Boudani à Ouagadougou, Gervasio Semedo. La Côte d'Ivoire, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est vital pour tous les pays de la région.
Voilà, un exemple simple, en 1999, Abidjan, le port d'Abidjan assurait 50% du trafic maritime. Et c'est un atout essentiel pour les pays enclavés.
50% du trafic maritime.
Du trafic maritime de l'ensemble des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement. Et le Mali, le Niger et le Burkina profitaient bien de cette situation. Quand la situation a été assez tendue en Côte d'Ivoire, pour diverses raisons, on connaît d'habitude par voie, par exemple, routière, les taxes qu'on appelle taxes PDG, police, gendarmerie, douane, ce qui hypothèque largement cette question du libre-échange hein, dans la sous-zone, et pourtant qui est vitale. Hein. C'est pas une zone d'échange préférentielle qui fonctionne très bien. On a des difficultés là-dessus. Il y a les coupures de route, il y a l'insécurité. Toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des formes de contournement du trafic maritime. On passe par d'autres voies ou du trafic routier pour essayer d'acheminer les produits. Et à ce moment-là, le port d'Abidjan est concurrencé par le port de Cotonou, le port de Falémé, de Takoradi, etc. Il y a d'autres sorties du trafic de marchandises qui font que la Côte d'Ivoire perd un peu son atout en termes portuaires.
Gilles Dufresneau, un dernier mot pour conclure l'émission. Optimiste pour la Côte d'Ivoire ou pessimiste? Dernier mot.
Résolument optimiste, en souhaitant vraiment que ça marche. Vraiment.
Gervasio Semedo, même question, optimiste ou pessimiste?
Oui, j'ai la même conclusion. Bien sûr, c'est une économie qui doit converger. Peut-être que dans 20 ans ou 25 ans, on va rattraper le Brésil, hein, pour être optimiste aussi. Et bien sûr, si la Côte d'Ivoire est stable, c'est ce que nous souhaitons pour l'ensemble de la région, eh bien, le pari du développement et des transformations structurelles nécessaires sera gagné.
Eh bien, merci à vous deux, Gilles Dufresneau et Gervasio Semedo, d'avoir participé à cet écho d'ici, écho d'ailleurs, qui est maintenant terminé. Fabien Mugneret a réalisé et mis en onde de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.